Alors, si vous voulez me suivre, on va aller dans Genèse, chapitre 11, les versets 1 à 9. Or, toute la terre avait le même langage et les mêmes mots. Mais il arriva qu'étant parti du côté de l'Orient, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar, et ils y demeurèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur tint lieu de pierre, et le bitume leur tint lieu de mortier. Et ils dirent, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet soit dans les cieux, et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. » Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qu'avaient bâti les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, c'est un seul peuple, et ils ont tous le même langage, et voilà ce qu'ils commencent à faire. Et maintenant, rien ne les empêchera d'exécuter tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons et confondons là leur langage, en sorte qu'ils n'entendent point le langage l'un de l'autre. Et l'Éternel les dispersa de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi son nom fut appelé Babel, confusion, car l'Éternel y confondit le langage de toute la terre, et de là l'Éternel les dispersa sur toute la face de la terre. » Alors, on va demander au Seigneur de nous asseoir. On demande au Seigneur de bénir notre étude et de permettre que les principes qui sont inclus dans ce passage-là, ça vienne nous transformer. C'est le but de chacun des sermons, d'ailleurs. Alors, on va demander au Seigneur d'être avec nous, de nous guider, de nous diriger. Alors, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons à ta sainte présence, Seigneur. C'est une bénédiction énorme que de pouvoir venir entendre ta parole, dimanche après dimanche, sans qu'il y ait aucun obstacle qui nous empêche, aucune persécution. Alors, Seigneur, on sait que sans ton esprit, on peut prier, on peut prêcher et rien peut arriver, rien ne peut se produire. Mais cependant, Seigneur, on fait appel à ton Saint-Esprit. On sait, Seigneur, que par ton Saint-Esprit, si tu souffles sur ma manière d'emmener le message, si tu souffles sur les cœurs pour qu'ils soient vraiment ouverts à entendre ta parole, non seulement l'entendre avec leurs oreilles, mais l'entendre avec leur cœur, de manière, Seigneur, à ce que les principes que tu veux nous enseigner dans ce passage-là, on les mette en pratique dans nos vies et nous rendre un peu plus semblables à Christ. Et on te demande ces choses, Seigneur, par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Alors, j'ai intitulé le message aujourd'hui tout simplement « Le souverain règne de Dieu sur Babel ». Je rappelle la signification de souverain. Je me souviens une fois, j'étais à Lennoxville dans le temps, puis je prêchais sur la souveraineté de Dieu, puis il y a une femme qui vient me voir après l'assemblée, puis elle me dit « C'est quoi ça, souverain? » Souverain, c'est tout simplement un roi. Un roi qui règne, un roi qui a toutes les qui a tout le pouvoir exécutif, tous les pouvoirs. Quand tu règnes, c'est comme... On sait qu'il y a eu des rois qui ont eu énormément de pouvoir, mais le pouvoir des hommes est toujours limité. Celui de Dieu est illimité. C'est la différence. Alors, j'ai intitulé le message aujourd'hui « Le souverain règne de Dieu sur Babel ». On va voir qu'à l'intérieur du texte, il y a trois idées. Le souverain règne de Dieu qui est résisté par les hommes. Autrement dit, Dieu voulait quelque chose, les hommes se sont mis à travers la route de Dieu. La deuxième idée, c'est que le souverain règne de Dieu a été réaffirmé. Dieu s'est servi de sa puissance pour rétablir les choses et les renvoyer dans la direction que lui voulait qu'ils aillent. Et la troisième idée, c'est que le souverain règne de Dieu est maintenant réalisé, versets 6 à 9. L'idée, c'est que Dieu voulait que tous les hommes se répandent sur toute la terre. Les hommes ont essayé de mettre un bâton des roues, comme on dit, et ça n'a pas marché, parce que le Seigneur il a dit... Vous ne comprendrez plus entre vous autres, vous ne pourrez plus essayer de construire, je vais m'organiser pour que vous vous dispersiez tel que qu'est ma volonté. Alors, si on veut apprécier le passage de Genèse 11, on se doit de se rappeler que le récit, si on veut comprendre le récit de la tour de Babel, on se doit de revenir un petit peu pour suivre le courant des idées qui sont énoncées dans le livre de la Genèse. D'abord, il y avait eu la promesse de Dieu d'envoyer un Messie pour solutionner le problème du péché suite à la chute d'Adam et Ève. Genèse 3, 15, qui est le... On parle aussi, comme dans ce verset-là, on parle de, déjà que le Seigneur enverrait un Messie plus tard. Après ça, on avait vu une autre promesse du Seigneur pour préserver la vie sur la terre jusqu'à la venue du Messie. Ça, ça avait été donné à Noé. Et le signe de ça, que la vie continuerait sur la terre, c'était l'arc-en-ciel, dans Genèse 9. Et dans le cadre de l'alliance avec Noé, on avait appris que la volonté divine qui avait été exprimée clairement, c'était que les hommes se multiplient et se répandent sur toute la terre. Et là, ici, on voit un mouvement de résistance des hommes qui, plutôt que d'obéir à Dieu et de se répandre sur toute la terre, on dit non, on ne se répand pas, nous, on se construit une grosse ville et on élève une tour. On va voir tout cela. Alors, dans les 11 premiers chapitres de la Genèse, moi, j'aime beaucoup la Genèse. Je ne sais pas si vous partagez mon amour de la Genèse. J'aime beaucoup la Genèse. C'est la base. Alors, dans les 11 premiers chapitres de la Genèse, on est témoin de 3 grands jugements qu'on peut dire universels, que ça l'a compris tous les hommes. Le premier, c'était celui de la chute. Alors, on a vu que... Et le deuxième, c'était celui du déluge, dans les chapitres 6 et 7, où Dieu nous montre qu'il a envoyé le jugement. Et le troisième, c'est celui de la confusion des langues du chapitre 1. Donc, 3 grands jugements universels dans les 11 premiers chapitres de la Bible. Alors, le Seigneur, il veut montrer que c'est lui le patron. Alors, d'après les estimations des spécialistes des langues sur la Terre, il y aurait 6 000 approximativement, là, on ne peut pas donner un chiffre très, très, très précis là-dessus. Même les spécialistes ne donnent pas un chiffre précis, mais ils donnent un chiffre approximatif. Il y aurait approximativement 6 000 langues différentes sur la Terre. C'est beaucoup de langues. Alors, la Bible nous explique pourquoi il existe tant de langues sur la Terre. La confusion des langues, selon les Écritures, ça résulte d'une intervention surnaturelle de Dieu. Imaginez-vous la puissance que ça prend pour changer les langues de millions d'hommes à la fois pour qu'ils se comprennent plus entre eux. Il faut que tu sois capable de travailler sur l'esprit, parce que les mots que tu avais avant, là, tu ne les comprends plus et le monde ne se comprenne plus entre eux. Alors, la confusion des langues résulte d'une intervention surnaturelle de Dieu. Là, des gens, des fois, peuvent se poser la question, quelle langue les hommes parlaient à l'époque, avant la confusion des langues? Alors, c'est l'opinion des rabbins juifs, des pères de l'Église et des théologiens anciens que la langue parlée par les hommes avant le jugement de la confusion des langues par le Seigneur était l'hébreu ou la langue primitive des Sémites qui étaient des descendants de Sem. Donc, ça, on ne peut pas affirmer que les Écritures enseignent ça, mais beaucoup de personnes qui ont enseigné les Écritures ont enseigné ce principe-là. Alors, ça dit dans Genèse 11, verset 1, « Or, toute la terre avait le même langage et les mêmes mots. » Si on veut situer l'époque de la tour de Babel, il semble qu'il se serait écoulé approximativement 100 ans après le déluge pour situer l'époque de la tentative humaine de construire la tour de Babel. Et on se souvient, dans nos leçons précédentes, qu'on avait déterminé qu'il y aurait eu approximativement 1656 ans après la création. Donc, 600 ans après le déluge. Le déluge aurait eu lieu en 1656, donc on serait rendu en 1756. Alors, quels étaient les péchés qui ont été mentionnés dans le livre de la Genèse après la chute? On en mentionne plusieurs. Le premier qui a été mentionné, c'est l'indulgence dans la sensualité. Autrement dit, l'ivresse de Noé. Ça a créé énormément de problèmes. Le deuxième, ça a été le mépris de l'autorité parentale par Cam et Canaan, qui était le fils de Cam. Et le troisième, c'était celui qu'on va voir aujourd'hui, la contestation de la suprématie, de l'autorité et du règne du Seigneur. Donc, Eux, ils ont voulu construire une tour et on va voir que le Seigneur intervient et il va leur montrer qu'ils ne sont pas pesés en balance, comme on dit. Alors, la première idée qu'on va regarder, le règne souverain de Dieu, résister. Les versets 1 à 4, c'est vraiment l'idée que les hommes résistent à la volonté révélée de Dieu de se répandre sur toute la terre. Une résistance qu'on peut qualifier très certainement d'une résistance ingrate. Parce que ça dit, toute la terre avait le même langage et les mêmes mots. Et à quelque part, ils viennent gâter la sauce, comme on dit. Alors, on avait vu dans les leçons précédentes que Nimrod était un leader violent, ambitieux et d'une impiété blasphématoire. Il voulait instaurer une monarchie universelle par le moyen de construction de villes, ce qui était contraire à la volonté divine de se répandre sur toute la terre. Les hommes jouissaient alors d'un moyen de communication idéal, bien sûr, la même langue. Vous essayerez ça de prendre des gens de différentes langues, de 50, 100 langues différentes, puis essayer de leur faire travailler sur un projet en commun, vous allez voir que c'est du trouble. Alors, c'est durant cette période que les hommes ont élaboré l'idée de construire la tour de Babel. Dans les versets 2, on va voir que l'idée de cette idée-là de vouloir construire une tour, c'était une idée présomptueuse. Oups, présomptueuse, ça veut dire quoi, ça, présomptueux? Être présomptueux, c'est d'avoir une trop haute opinion de soi-même. C'est exactement le péché dont les hommes font preuve dans ces versets. Versets 2 et 3. Mais il arriva qu'étant parti du côté de l'Orient, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et ils y demeurèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur tint de pierre et le bitume leur tint de mortier. Alors, plutôt que d'obéir au commandement de Dieu de se répandre sur toute la terre, les hommes se rebellèrent contre le Seigneur et résolurent collectivement. Là, ce n'était pas juste Nimrod. Peut-être que Nimrod était le leader, mais il n'était pas obligé de suivre. Alors, Nimrod était le leader, mais ils ont suivi dans la même idée que non, on ne se répand pas sur toute la terre, on se construit des villes, on se construit une tour. Alors, les hommes se sont rébellés contre le Seigneur et ont résolu collectivement de s'installer dans la facilité et le confort de la plaine, parce qu'ils disent qu'ils étaient dans la plaine de Shinéar. Ils s'excitèrent mutuellement et entreprirent une construction qu'ils voulaient solide et durable dans le but de contester la suprématie de Dieu, son autorité, son règne. Ils projetèrent follement de se substituer à lui pour la conduite de leur vie et, en plus, de lui faire la guerre. Faire la guerre à l'Éternel. Quatrième type de résistance, c'est une résistance blasphématoire dans le verset 4. Et ils dirent, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet soit dans les cieux, et faisons-nous un nom de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. » Ici, on le voit le blasphème. Dieu veut quelque chose, l'homme cherche à s'opposer à la volonté de Dieu. Alors, on perçoit clairement dans ces versets-là la volonté collective des hommes, le « nous » bien résolu de faire la guerre à Dieu, de le défier, de devenir le rival de Dieu, de vouloir le remplacer dans le gouvernement de leurs affaires, de leur adoration et de leurs projets. Alors, certains commentateurs croient que la raison pour laquelle les hommes voulaient se construire une tour était qu'ils croyaient qu'en agissant ainsi, ils s'exposaient à l'envoi d'un autre déluge et que la hauteur de la tour les protégerait contre le jugement. C'est un petit peu fou, là. Les hommes voulaient collectivement se soustraire à la volonté divine révélée clairement de se disperser sur toute la terre. Il y a une idée intéressante, le pasteur et docteur presbytérien qui s'appelle Donald Gray Barnhouse. Il a vécu de 1895 à 1960. Très connu aux États-Unis, il y a eu des émissions de radio, de télévision, un prédicateur et un théologien très connu. Voici ce qu'il dit sur leur idée de vouloir se construire une tour. Quelle était l'idée qu'il y avait en arrière de tout cela? Je vous la donner en anglais, c'est très court, puis je vous la traduire après. Il dit, « It was an open, definite turning to Satan and to the beginning of devil worship. » Traduction. « C'était un moment définitif et ouvert vers Satan et le début de l'adoration satanique. » Alors, on va développer un peu plus l'idée un peu plus tard. Mais comme on sait, le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois est jaloux de ses prérogatives exclusives. On sait que certaines choses sont exclusives au Seigneur. Par exemple, le droit de vie ou de mort. Le Seigneur accorde le droit d'enlever la vie à des hommes lorsqu'ils ont tué quelqu'un. Mais en général, l'homme n'a pas le droit de vie ou de mort sur qui que ce soit. Dieu a le droit de vie ou de mort sur toutes ses créatures, sans exception. Et ça, c'est une prérogative qui est exclusive. Seulement lui est capable de l'exercer. Une autre prérogative qui lui est exclusive, c'est le droit à l'adoration. Seul le Seigneur a le droit d'être adoré. On sait que Satan a voulu essayer d'utiliser cette prérogative divine qui lui est exclusive, mais ça n'a pas fonctionné. Le droit d'adoration, le droit à être servi par l'ensemble de toutes ces créatures et son absolue souveraineté sur le gouvernement de la terre. Très peu de personnes aujourd'hui comprennent que le Seigneur est au contrôle de tout ce qui se déroule sur la terre. Des fois, on regarde les événements et on pense que tout est. Il n'y a plus de contrôle. C'est le désordre, c'est la confusion. C'est vrai qu'il y a du désordre. À nos yeux, à nous, on voit ça comme étant beaucoup de désordre, beaucoup de confusion. Et il y en a. Mais le Seigneur est au contrôle de tous ces événements-là, les gouvernements de la terre, que ce soit à quelque niveau que ce soit, provincial, municipal, international, national. Le Seigneur est au contrôle. C'est lui qui contrôle toutes ces choses-là. Et autre chose qu'on oublie souvent, non seulement il est souverain ou dirige les circonstances des gouvernements de la terre, mais il dirige aussi les circonstances personnelles de chacun des individus de la terre, y compris nos vies à nous. C'est bizarre qu'on passe notre temps à critiquer et à chialer qu'est-ce que le Seigneur envoie dans nos vies. Et les Écritures nous disent que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, dans Romains 8, 28. Alors, s'il contrôle toute chose, les choses travaillent ensemble, tout ce qui arrive dans nos vies, sans aucune exception, même dans les petits détails, le Seigneur est au contrôle et il utilise ces choses-là, soit pour corriger, soit pour instruire, soit pour transformer notre manière d'être. Si on serait vraiment conscient de ça, on dit des fois, on lit le verset, « Toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. » Mais si ça serait vrai que tu le comprendrais, tu chialerais jamais. Parce que les choses qu'il t'envoie dans ta vie, ce sont des choses qu'il utilise pour ton bien. Toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce qu'on aime Dieu? Si on aime Dieu, toute chose dans nos vies, même dans les détails, plus on prend conscience de ça, plus on trouve le Seigneur glorieux et merveilleux. Donc, non seulement les circonstances des individus, les circonstances des familles, les circonstances collectives des peuples et tout ça. Alors, le Seigneur, on le sait, ne tarde pas à juger sévèrement ceux qui osent s'arroger les prérogatives divines. S'il y a quelqu'un qui se prend pour Dieu puis qui essaie de faire des choses qui sont de l'autorité exclusive de Dieu, le Seigneur va le corriger sévèrement. On a, par exemple, dans Ésaïe 45, les versets 9 à 12, « Malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi des vases de terre. L'argile, dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. C'est intéressant de se rendre compte de ça, que ceux qui osent s'arroger les prérogatives exclusives de Dieu vont automatiquement subir des châtiments très grands, très grands, très graves. On va regarder la deuxième idée. Donc, on voit que les hommes cherchent à résister à la volonté révélée de Dieu, que les hommes se répandent sur toute la terre. La deuxième idée était le règne souverain de Dieu réaffirmé. Autrement dit, Dieu les laisse aller. À un moment donné, oh, ça va faire. On va vous montrer c'est qui est le patron. Alors, verset 5. Ici, le Seigneur veut montrer plusieurs de ses attributs. On dit l'omnipotence. Omni, ça veut dire tout. Potence, ça veut dire puissance. Dieu tout-puissant. On n'a pas d'idée jusqu'à quel point Dieu est tout-puissant. Omniprésence. Omni, qui veut dire tout. Présence, il est partout. Il est ici ce matin. Il est dans l'Assemblée de Rouen, il est dans l'Assemblée de Québec, il est dans toutes les assemblées du monde, il est dans toutes les villes du monde, il est dans toutes les parties de l'univers, l'omniprésence. Et il veut aussi nous montrer son omniscience, il sait tout. Et son absolue souveraineté sur les esprits des hommes et leurs projets. Et ici, il va le faire en leur montrant qu'il va détruire un monument qui manifestent l'orgueil des hommes et leur ambition blasphématoire et leur folie. Alors dans 11.5, ça dit, « Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qu'avaient bâti les fils d'hommes, des hommes. » Alors ce passage démontre une fois de plus que le Seigneur utilise un langage anthropomorphique. Oh, tu vas dire, oh, que c'est-tu dis? Anthropo veut dire homme, morphique veut dire forme. Le Seigneur utilise la forme d'un langage humain pour nous parler de choses, pour nous aider à comprendre. Est-ce que le Seigneur est vraiment descendu? Y avait-tu besoin de descendre? Non. Et quand il dit « pour voir », c'est comme si le texte nous parle dans un langage pour nous faire comprendre des idées. Le Seigneur, il n'avait pas besoin de descendre, puis il n'avait pas besoin de voir parce qu'il est omniscient. Il savait toutes ces choses-là, mais il utilise un langage pour nous aider à comprendre. Alors, lorsque Dieu... on parle d'un langage anthropomorphique. Lorsque Dieu utilise des images, des mots ou des concepts que l'homme est capable d'appréhender afin que nous puissions saisir quelque chose de la nature. Quand on parle du bras de Dieu, ça veut-tu dire que Dieu, il a un bras? Ça veut dire que Dieu est capable d'agir sur n'importe quelle partie de l'univers, que ce soit à Nantes, à Mégantic, à Québec, le bras de Dieu. Ça veut dire que sa capacité d'agir s'étend sur tout son univers créé. Et même au-delà, il est même au ciel. Alors, c'est un langage qui se doit d'être interprété avec ce qu'on appelle l'analogie des Écritures. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Ça veut dire en harmonie avec les autres passages des Écritures. Alors, c'est une idée. Il faut savoir que quand le Seigneur utilise un langage comme ça, qui descend, que le bras ou les yeux de l'Éternel, qui respire l'odeur, de bonne odeur, des choses comme ça, il parle un langage pour qu'on comprenne une idée. Bien sûr, Dieu n'a pas un nez, et on le dit, Dieu est un esprit, donc à quelque part. Mais il utilise un langage que nous, on connaît, le bras, les yeux, le nez, les oreilles, et pour nous expliquer les idées. Alors, bien entendu, l'expression « descendit » et « pourvoir » sont des anthropomorphismes, car nous savons que le Seigneur est omniscient et qu'il n'avait absolument pas besoin de descendre sur la terre, ni de voir. Il voyait tout déjà. Mais il l'utilise pour que nous comprenions. Alors, c'est vrai, bien sûr, une réaffirmation qui est condescendante. L'Éternel va exercer de la miséricorde dans son jugement de ce péché inqualifiable. Le Seigneur aurait pu être beaucoup plus sévère qu'il l'a été. Et là, il leur a donné comme jugement la confusion des langues. Mais le péché était d'une telle ampleur qu'il aurait pu les punir de façon beaucoup plus sévère. Alors, le jugement de Dieu est sévère, mais il contient quand même de la miséricorde. Un peu comme des fois, dans nos propres vies, des fois, ils ont fait des choses qui mériteraient des jugements sévères, puis que le Seigneur est miséricordieux envers nous. Pourquoi ce péché-là était inqualifiable? Parce que les hommes cherchaient à usurper la place et l'autorité de Dieu. Dans un pays où il y a une dictature, là, tu essaieras d'usurper l'autorité du dictateur et sa place. Tu vois. Et là, c'est un homme plein de péchés. Mais là, on parle de Dieu. L'homme est assez orgueilleux, assez fou, assez arrogant pour vouloir remplacer Dieu par sa propre personne. Il y avait quelque chose de fou là-dedans, il y avait quelque chose de fou allié, comme on dit. Alors, il aurait pu avoir un jugement beaucoup plus sévère si on aurait considéré la gravité de la faute. Dans Ésaïe 40, versets 22 à 26, on parle du Seigneur, ça dit « C'est lui qui est assis au-dessus du globe de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. C'est lui qui étend les cieux comme un voile. » Ça donne-tu une idée de la puissance de Dieu? Dans nos premières leçons de Genèse 1, on a parlé de la grandeur de l'univers, du poids de ça, du nombre d'étoiles. Et c'est ahurissant, on n'est même pas capable des chiffres tellement grands qu'on n'est même pas capable de les comprendre. On n'est pas habitué que ces chiffres-là sont trop gros. Regardez ce qu'il dit. C'est lui qui étend les cieux comme un voile. Si je prends un voile, as-tu de la misère à l'étendre? Mais lui, il fait ça avec l'univers créé. Tu as une idée comment il est puissant, le Seigneur? Qui étend les cieux comme un voile et les déploie comme une tente pour y habiter. C'est lui qui réduit les princes à rien. Il peut prendre un homme sur la terre qui est d'une grande puissance puis le réduire à zéro du jour au lendemain. Et qui anéantit les gouverneurs de la terre. À peine sont-ils plantés, à peine sont-ils semés, à peine leur tronc a-t-il pris racine en terre, l'Éternel souffle sur eux, ils sèchent. Quelle belle image. Il parle d'hommes qui sont puissants, puis il dit, l'Éternel a juste fait. Ils sèchent, puis ils sont plus dans la game, comme on dit. Il dit, l'Éternel souffle sur eux, ils sèchent, et un tourbillon les emporte comme du chaume. À qui me feriez-vous ressembler? À qui serais-je égalé, dit le Saint avec un S majuscule. Levez les yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? C'est lui qui fait sortir en ordre leur armée, qui les appelle toutes par leur nom. Et on avait passé dans Genèse 1, on avait déterminé le nombre d'étoiles, je ne m'en souviens même plus. C'est énorme! Il leur donne un nom à toutes. Moi, je vous dis que je suis arrivé ici, ça m'a pris un mois avant d'apprendre les noms des personnes qui sont dans la salle. Mais quand on parle de milliards, puis il leur donne un nom à tous, puis lui, je suis convaincu qu'il s'en souvient. Moi, ça peut arriver que je les oublie, mais lui, il les oublie jamais. Il dit, telle est la grandeur de son pouvoir et de sa force puissante, que pas une ne manque à lui obéir. Toute la création de Dieu obéit au Seigneur. D'ailleurs, le Seigneur, quand il est venu sur la terre, l'a démontré, il a calmé le vent, calmé la tempête. Il y a la puissance sur la nature elle-même. C'est quelque chose d'extraordinaire. Dans le psaume 2, versets 1 à 4, une autre manifestation de la puissance de Dieu. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Et pourquoi les peuples projettent-ils des choses vaines? Les rois de la terre se sont levés et les princes se sont concertés ensemble contre l'Éternel et contre son oint. Rompons leurs liens, disent-ils. Et jetons loin de nous leurs cordes. Celui qui est assis dans les cieux s'en rira. Le Seigneur se moquera d'eux. Les hommes qui cherchent à faire des choses qui sont pas dans leur domaine, le Seigneur, ils trouvent ça drôle. C'est comme on se ferait menacer par un bébé de 8 ans, de 8 mois. On ne se sentirait pas trop menacé. On rirait. Même s'il serait sérieux, lui, dans sa volonté de nous impressionner, je pense qu'il... Parce qu'il pense qu'il passera à côté un peu. Donc, une réaffirmation omnisciente. Je ne vous lirai pas le passage, il est long un peu. Psaume 139, versets 1 à 17. Le psaume 139, c'est un excellent psaume pour nous montrer jusqu'à quel point Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Il dit, avant même que tu dises quelque chose, je sais que tu vas dire. C'est-tu assez extraordinaire? Avant même que je dise quelque chose, le Seigneur sait ce que je vais dire. C'est extraordinaire, ça. Alors, le psaume 119, on ne lira pas le passage ce matin. Mais je vous recommande de le relire. C'est un passage tellement extraordinaire qui nous parle jusqu'à quel point le Seigneur nous connaît à la perfection. Alors, le Seigneur va démontrer sa toute-puissance en confondant les langues, ce qui implique qu'il a accès à leurs esprits. Imaginez-vous des millions d'hommes, puis instantanément, tu envoies une commande, tu dis, je veux que leur langage soit confondu. Et il y en a un qui parle espagnol, l'un qui parle français, l'autre parle russe, l'autre... Et toutes les langues connues, 6000 langues. Alors, le monde devait commencer à vouloir se parler entre eux. Là, personne ne comprenait rien, à moins que tu étais à côté d'un qui parle la même langue que toi. À quelque part, le Seigneur leur a dit, « Je vous ai dit que je voulais que vous vous répandiez sur toute la terre et que vous le vouliez ou non, vous allez vous répandre sur toute la terre. » Alors, c'est assez extraordinaire. Alors, il a accès aux esprits et il peut modifier les esprits. Il dit dans le livre des Proverbes que, comme un courant d'eau, disons que vous mettez, il y a un courant d'eau qui tombe, mettez votre main, vous pouvez diriger l'eau, ce que vous voulez. Mais il dit que l'esprit des rois, pour lui, c'est comme ça. Il peut changer ce qui se passe dans la tête d'un roi à sa guise. Pas dur pour lui faire ça, là. Pour nous, quand on essaie d'influencer quelqu'un, on se rend compte qu'on frappe des nœuds souvent. Hein? Mais le Seigneur, lui, quand il décide d'influencer l'esprit de quelqu'un, de le disposer soit à ta faveur ou soit en ta défaveur, il le fait comme il veut et sur les rois de la terre. Il est en train de dire, si je le fais sur les rois de la terre, penses-tu que j'ai de la misère avec le tien, ton esprit? C'est ça qu'il veut dire. La troisième idée, c'est vraiment le règne souverain de Dieu qui est réalisé. Le Seigneur va les ramener à l'idée première qu'il avait déjà manifestée. Alors, on voit dans le verset 6, on le constate, verset 6 de Genèse 11, « Et l'Éternel dit, voici, c'est un peuple, ils ont le même langage, et voilà ce qu'ils commencent à faire. Et maintenant, rien ne les empêchera d'exécuter tout ce qu'ils ont projeté. » Le Seigneur ici s'affirme comme un juge et un roi, et non pas comme un simple spectateur qui regarde ce qui se passe en bas. Alors, il constate l'ampleur de leur ambition impie et leur folie de vouloir lui résister. L'établissement du royaume de Dieu ne peut d'aucune manière être réellement empêché par la rébellion de l'homme. Quand on lit l'histoire de l'Église, il n'y a rien de plus intéressant qu'à regarder l'histoire de l'Église, depuis le début à aujourd'hui. Satan, les gouvernements, de toutes sortes de manières, des fois le mercredi soir, dans une soirée de prière, on regarde... Qu'est-ce qui se passe dans certains pays de la Terre actuellement où les hommes cherchent à stopper l'avancement du royaume de Dieu? Ils ne veulent pas que l'Évangile se prêche dans leur pays et ils prennent toutes sortes de moyens possibles, imaginables, pour essayer de le faire. Le Seigneur a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elles. Alors le Seigneur dit, mon royaume, vous avez beau vouloir... vous opposer, ça ne marchera jamais. Et ça va marcher jusqu'à un certain point. Alors, dans le verset 7, il leur dit, « Allons, descendons, confondons-là leur langage, en sorte qu'ils n'entendent point le langage l'un de l'autre. » C'est un jugement qui est miraculeux, il est rempli de miséricorde et il est non proportionné à la gravité de l'offense. Alors, il met un frein à leur projet, en agissant sur leurs esprits et en commandant que chacun d'eux utilise une langue différente de manière à ce que les communications soient presque impossibles et que le travail, avec un même accord, ne puisse pas se réaliser. J'essaierai ça avec une personne que vous connaissez. Je veux plus que tu parles français, je veux que tu parles espagnol. Vous allez voir si ça marche. Ça ne marche pas, mais le Seigneur est capable de le faire sur des millions d'esprits instantanément et efficacement. Nous, on pourrait rêver d'avoir ce pouvoir-là, mais on n'a pas la sagesse pour pouvoir l'exécuter. Alors, il est à remarquer que le Seigneur ne détruit pas la tour elle-même, probablement pour être un monument de leur faiblesse et de leur folie présomptueuse. Il aurait pu dire, je vais détruire ça, cette tour-là, moi. Et dans le verset 8 et 9, on voit, il dit, l'Éternel les dispersa de là, sur la face de toute la terre. Mm-hmm. Voyez-vous la résistance à Dieu que ça donne? Ça donne rien, rien du tout. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi son nom fut appelé Babel. Et la signification de Babel, ça veut dire confusion. Il a confondu le langage des hommes de manière à ce qu'ils ne puissent pas se rendre au terme de leur folie. Parce qu'elle dit, car l'Éternel y confondit le langage de toute la terre. Et de là, l'Éternel les dispersa sur toute la face de la terre. C'est-tu beau? Les hommes peuvent essayer ce qu'ils veulent. Quand l'Éternel dit « ça ne marche pas, tu vas faire ce que je te dis. » Un peu comme quand j'étais jeune, des fois. J'étais un petit peu rebelle avec mon père, puis mon père m'a pogné, puis petite fessée un petit peu, puis hop, je m'ennuyais. Alors le Seigneur va démontrer aux hommes sa puissance en les dispersant malgré eux et en arrêtant leur projet. Un beau verset dans Proverbes, chapitre 21, verset 30. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil pour résister à l'Éternel. La volonté divine de la dispersion des hommes sur toute la face de la terre s'est réalisée telle que nous pouvons le constater dans le chapitre 10 de la Genèse. Alors rappelons que le chapitre 10, il arrive dans les Écritures des fois les Écritures ne sont pas toujours dans un ordre chronologique. Comme le verset 11, le chapitre 11 de Genèse, normalement, devrait être avant 10, parce qu'il parle des langues avant même que la confusion des langues. Dans le chapitre 10, il parle de la confusion des langues, que les langues existaient déjà et le jugement de Dieu n'avait pas été donné. Mais ça arrive souvent dans les Écritures, que les Écritures ne sont pas toujours données dans un ordre chronologique. Alors, il faut se rappeler ces choses-là, sans ça, ben, on se pose des questions un petit peu bizarres. Parce que dans Genèse 10, verset 5 et verset 32, ça dit « Par eux furent peuplées les îles des nations dans leur terre, chacun selon sa langue, selon leur famille, selon leur nation. » Alors, si on parle de langue dans le chapitre 10, et il n'y avait pas eu encore de confusion de langue, à quelque part, on peut se poser la question, comment ça se fait qu'il parle de langue dans le chapitre 10, alors que la confusion était juste dans le chapitre 11? C'est simple, c'est que des fois, les Écritures ne sont pas toujours données dans un ordre chronologique. Alors, ici, j'ai une phrase que je vais, parce que je me sers souvent du commentateur qui s'appelle Matthew Henry, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup Matthew Henry. Il a fait un commentaire sur toute la Bible en 6 volumes. Et c'était un homme de Dieu, un homme de prière. Et quand tu lis tous les commentaires qu'il a fait sur les Écritures, tu es toujours béni. Toujours, toujours, toujours béni. En tout cas, moi, tout ce que j'ai lu est venu jusqu'ici. Alors, lui, il fait une application pratique dans ce passage-là pour nos vies. Le fait que Dieu a, malgré la résistance des hommes, malgré leur folie, leur arrogance, leur orgueil, il les a dispersés malgré lui. Et là, il veut qu'on fasse une application pratique pour nos vies de tous les jours. Voici ce qu'il dit. Je vous l'ai dit en anglais, elle n'est pas longue. Après, je vais vous la traduire. God's hand is to be acknowledged in all scattering providences. If the family is scattered, relations be scattered, churches be scattered. Traduction. Nous devons reconnaître la main de Dieu dans toutes nos providences de dispersion. Si la famille est dispersée, si nos relations sont dispersées, si nos églises sont dispersées. Voir la main de Dieu, ces choses-là n'arrivent pas par hasard. S'il y a des dispersions dans nos familles, s'il y a des dispersions dans nos relations, un tel qui est un ami part, prend l'ailleurs, tout ça, il faut voir la main de Dieu parce qu'elle est là. Et dans nos églises, ça c'est une belle application parce que des fois on voit des choses qui se passent dans les églises. Les gens arrivent, les gens partent. Il y a toutes sortes, pour toutes sortes de raisons. Mais le Seigneur est en arrière de tout cela. Il contrôle parfaitement toutes ces choses-là. Quand on se souvient de ça, ça nous aide à comprendre que des fois, le Seigneur, il se sert de des circonstances de nos vies pour nous faire comprendre des choses et pour que la personne qui change de place, elle a un rôle différent ailleurs, Il sert de toutes ces choses-là avec une grande sagesse, une grande intelligence. Alors, dans le verset 9, le Seigneur nous indique la signification de Babel, qui signifie confusion. Et est-ce que Babel, ça vous fait penser à un autre nom? Babel, Babylone. Bon, à quelque part, ça vient de la même racine. Alors, il est à noter que les archives archéologiques païennes, remarquez bien celle-là, elle est spéciale, parlent du nom de Babylie. Ils utilisent le nom Babylie et pour eux, ça signifie la porte des dieux. Autrement dit, le but fondamental de la construction de cette tour-là, dont ça dit que vous, dont le sommet voulait atteindre les cieux, c'est pour ça que tout à l'heure que Donald Greenhouse disait que c'était le début de la volonté des hommes d'adorer Satan, d'adorer les esprits mauvais, plutôt que d'adorer Dieu. Alors, quelque part, ça, c'était fort probablement l'idée fondamentale de la construction de cette tour-là. Alors, les païens, quand ils parlent de la tour de Babel, ils l'appellent Babylie. Puis Babylie, ça veut dire « porte des yeux ». Autrement dit, pour eux, aller au sommet de cette tour-là, c'était une façon de communiquer avec les mauvais esprits. Alors, bien entendu, le Seigneur n'a pas laissé ces choses-là arriver. Et il voulait leur montrer la futilité de vouloir résister à sa volonté. Et la folie monstrueuse, leur folie monstrueuse, de vouloir usurper des prérogatives divines. Alors, dans sa sagesse, Dieu l'a utilisé pour poursuivre son œuvre de salut. Quand on Genèse 3,15, où il avait promis qu'il enverrait un Messie, donc il fallait que le temps soit suffisant pour permettre que, éventuellement, de toute la descendance des Sémites arriverait Jésus-Christ. Et il avait prévu ça, et il n'y avait rien pour empêcher la réalisation de tout cela, malgré l'opposition des hommes. Alors le Seigneur, bien entendu, ce qu'on pourrait appeler cette tour-là, on pourrait le dire que c'était le chef-d'œuvre de l'habileté et de la technologie, de la technique humaine, en voulant avoir un point de rencontre entre le ciel et la terre par l'adoration des démons. Que ça devienne pour eux le signe de leur vanité et l'échec cuisant de leur volonté d'autonomie sur la terre. C'est assez extraordinaire de voir que Dieu ne laisse pas le mal se développer comme les hommes seraient portés à aller beaucoup plus loin dans le mal. Il le contrôle. Alors, je vois au moins 4 applications du texte d'aujourd'hui qu'on peut appliquer dans nos vies de tous les jours pour changer quelque chose dans notre perception, dans notre compréhension des Écritures. La première, apprenons que l'homme a la tendance naturelle à dévier de l'adoration du Dieu véritable. Il a la folie de vouloir la changer pour celle des démons et celle des idolâtries. Quand vous lisez votre Ancien Testament, n'est-ce pas ce que le peuple de Dieu, des fois, est apporté à s'en aller dans toutes sortes de directions d'idolâtrie? Et c'était plus le vrai Dieu qui adorait, c'était... Alors, l'esprit humain a la tendance à toujours vouloir se dévier de l'adoration du Dieu véritable. Alors, la folie de vouloir la changer pour celle des démons et des idolâtries sous toutes ses formes. Alors, l'audace de l'homme est absolument sans borne. Il ose contester le règne divin et de prendre la place du Très-Haut. Il y a quelque chose d'absolument débant là-bas quand on pense à ça. L'être humain, avec toutes ses faiblesses, ses misères, son péché et sa corruption qui est d'une profondeur qu'il ne connaît même pas lui-même, ose dire « Au-dessus de là, on va prendre de place. » C'est arrogant, mais à un point qu'on ne peut même pas soupçonner. Deuxième application. Soyons persuadés de la fausseté des idées des hommes sur l'établissement de l'unité, de la paix, de la sécurité et de l'harmonie de la race sans Dieu. Vous souvenez-vous de ce que ça dit dans le Nouveau Testament? Lorsque les hommes diront paix et sécurité, ça va tout lui tomber dessus. Les hommes ne sont pas capables de construire ces choses-là. L'unité, c'est ça qu'ils voulaient, ils voulaient s'unir. La paix, la sécurité, l'harmonie de la race, ça ne peut pas se faire par des moyens des hommes. Ça ne peut se faire que par l'adoration et la soumission au Seigneur. Soit il faut apprendre ça. C'est une des leçons que le texte veut nous donner. La troisième, apprenons qu'il est absolument impossible de se soutirer du contrôle providentiel de Dieu. Le Seigneur, nos circonstances de tous les jours là, qu'on vit, là, il les connaît et il les contrôle à la perfection. Et même si je voulais dire, ben moi, là, cette affaire-là, c'est, il ne m'atteignera pas avec ça. Le Seigneur doit regarder ça. Pauvre petite créature insignifiante. Elle me fait penser, je veux vous raconter une petite anecdote parce que je la trouvais bien drôle. Il y avait un pasteur qui m'avait raconté, il dit, c'était une mouche, puis elle était sur le devant du bulldozer, elle était sur le bout, où ce que... Puis le bulldozer s'en va, puis il fonce dans une bâtisse, puis il détruit toute la bâtisse. Puis là, la mouche, elle s'en va voir une autre mouche, elle dit, on est puissant. Mais c'est vrai que des fois que c'est quasiment comme ça. Les créatures insignifiantes, à cause qu'ils voient quelque chose que Dieu fait, sont portées à s'attribuer la puissance à eux, alors que ça n'a rien à voir complètement. Alors, apprenons qu'il est absolument impossible de se soutirer du contrôle providentiel de Dieu. Et dernière application, sachons que Dieu intervient toujours en jugement dans toutes les affaires humaines qui menacent follement son gouvernement. Actuellement, sur la Terre, il y a un mouvement d'une poignée d'hommes qui cherche à établir un gouvernement mondial. Autrement dit, c'est pas nouveau et ça existe encore. Pensez-vous qu'ils vont réussir? Jamais. Alors, le Seigneur est jaloux de ses prérogatives et de ses honneurs. Ça lui appartient le contrôle. Et il ne laissera pas les hommes prétendre qu'ils l'ont. Parce qu'ils ne l'ont pas. Alors que notre grand, souverain et tout-puissant Seigneur soit béni, loué et adoré pour sa sagesse infinie. Amen. Amen.